Julie du 92. Bon, alors le thème, la décroissance. Après toutes ces années de croissance, on nous parle de décroissance. Oh là 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 là, ça me rappelle le dégraissé le mammouth. Ça fait peur. Pourtant, ça serait une bonne idée.
Bonjour, je suis Patrick de l'île de la Réunion. Je voulais informer qu'on veut quelque part affamer le peuple réunionnais en augmentant de 50% le prix de l'aliment du bétail qui est doublé, où nos agriculteurs ne peuvent plus faire face, et doubler en même temps le prix de la viande à la Réunion. Je lance un SOS au gouvernement. Bye bye.
Bonjour, je suis Catherine, j'appelle de Sillery à côté de Reims. Je voudrais vous parler d'un cursus d'immersion en nature pour les 14-18 ans, un cursus qui s'intitule Gardien du vivant, qui se déroulera sur 8 week-ends en forêt de septembre 2021 à juin 2022. Et j'avais envie de mettre l'accent vraiment sur ce projet autour des ados. Alors, je voulais vous dire quelques mots d'une jeune fille de 16 ans qui a participé au premier week-end et qui nous dit être dépourvue de ce qui nous rassure, notre téléphone, notre chambre, un accès facile aux amis, etc. Le fait qu'on ne l'ait pas, il faut passer par d'autres moyens. On est plus à nu, plus nous-mêmes et on veut aller plus loin. Juste aujourd'hui en tant qu'ado, se dire qu'on peut aussi faire autrement, se dire qu'on retombe toujours sur nos pattes, se dire qu'on a des instincts qu'il faut suivre et qu'on est très bien comme on est, ça fait du bien. Et c'est ce que j'ai ressenti à Gardien du Vivant. Voilà, merci pour votre écoute.
Antoine, maraîcher à Sainte-Cécile en Vendée, c'était pour poser une question. À quand une émission, un thème avec des gens bien informés qui explique comment la FNSEA avec l'agro-business détourne systématiquement toutes les mesures qui sont prises pour essayer d'améliorer la situation environnementale et de favoriser la bio, notamment dans le cadre de la modification de la PAC et de l'application de la PAC. Pour moi, c'est le frein principal en France pour que ça aille mieux. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.
Bonjour Mathieu. En fait, votre thème, la décroissance, m'a fait réfléchir à quelque chose. Après des années de volonté de croissance, de théorie de croissance, donc ça va être très difficile de changer ça dans les esprits parce que l'être humain persiste dans ses erreurs. Merci, merci pour vos émissions.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
En 2002, la revue française Silence publiait un numéro avec pour titre La décroissance, et c'est la première fois que ce concept était utilisé. De ce mot est né un mouvement, un espace de débat et de réflexion à l'échelle de la planète, avec des citoyennes et des citoyens qui ont commencé à expérimenter la décroissance au sein de leur foyer, de leur entreprise ou de leur parti politique. La décroissance semble nous inviter à redéfinir un nouveau modèle de société pour repenser nos besoins, nos choix de vie, pour limiter les impacts sur l'environnement. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot de décroissance qui suscite l'adhésion ou carrément le rejet immédiat? Eh bien, c'est le dossier de notre Terre au carré avec nos invités cet après-midi, Vincent Liégé et Valérie Guillard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à toutes et tous.
Bonjour à tous et toutes.
Bienvenue, Vincent Liégé, vous êtes ingénieur, chercheur interdisciplinaire et spécialiste de la décroissance. Et vous publiez donc Décroissance chez Tana Édition dans la collection Fake or Not. Et Valérie Guillard, vous êtes professeur en marketing à l'université Paris-Dauphine où vous dirigez le laboratoire de gestion et vous publiez « Comment consommer avec sobriété ». C'est un autre mot que vous employez chez Debec. On va se retrouver dans un instant pour parler donc de croissance et de décroissance. Questions et messages déjà nombreux des auditrices et auditeurs sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter où vous pouvez nous laisser vos notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Oui, une petite descente à 150 mètres sous terre. C'est là que je vous emmène aujourd'hui. Une équipe de spéléologues en train de cartographier les cours d'eau souterrains du Larzac.
Et voilà pour le sommaire de l'émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati avec Leonardo Kahn pour les réseaux sociaux et Florent Dorimini à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. France Inter.
Quand on parle de chiffres décroissants, on va du plus grand au plus petit.
Ben, c'est justement ce qui n'est pas la croissance, c'est-à-dire le monde de l'économie tel qu'il est aujourd'hui.
C'est de consommer moins, je crois que c'est ça.
Et si on produisait un petit peu localement, on va dire, on produirait peut-être moins, mais on produirait juste ce qu'il faudrait.
Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces objets ?
Aujourd'hui, c'est compliqué de se développer sans faire de croissance.
Peut-être il y a des solutions comme un salaire fixe pour tout le monde, et puis on décroît tous ensemble.
Voilà, ça c'était en 2017 sur France 24, un petit sondage autour de la décroissance, solution ou contrainte, donc le dossier de l'émission avec vous Vincent Liéger et Valérie Guillard. Ce mot, il fait déjà réagir en lui-même, hein, Vincent Liéger. D'ailleurs, il y a un premier message d'Agnès qui nous dit « Il faut absolument trouver un nom positif à cette décroissance, c'est le seul programme possible, sinon on va subir une crise épouvantable. » Il y a discussion autour du mot en lui-même ou pas ?
Il y a discussion depuis la création du mot, et on continue à l'utiliser. Donc il doit avoir quelque part un rôle plutôt positif. Une des intuitions, et ça venait de nos amis casseurs de pubs de Lyon, des personnes qui analysaient très bien le fonctionnement de la publicité, qui façonnent les imaginaires, qui manipulent les cerveaux pour nous faire désirer des choses dont on veut pas, pour faire tourner la machine économique, donc la croissance. Leur première intuition était d'avoir un mot qui ne soit pas récupérable par le système dominant.
Ouais.
Et on voit aujourd'hui que beaucoup de nos compagnons de route plutôt positifs qu'on a pu avoir depuis 20 ans ont été les uns après les autres malheureusement vidés de leur sens ou récupérés par le système dominant, bien que pour beaucoup d'entre eux, ils étaient portés par des gens tout à fait sincères.
Ouais.
Et on voit que 20 ans après, la décroissance continue à taper juste, continue à créer le débat dont nous avons besoin. Parce qu'il touche au cœur du modèle de société autour de ce qu'on pourrait appeler la religion de la croissance, du dogme de la croissance qui reste, qui reste toujours là.
Donc on l'a compris, vous ne le changerez pour rien au monde de votre côté, sauf que votre voisine, Valérie Guillard, elle préfère le mot de sobriété.
Et oui,
mais pour vous, ça veut dire exactement la même chose ou pas ?
Non, alors il n'est pas, je pense que évidemment toute la question de la sémantique est intéressante et importante, et la sobriété ne véhicule pas les mêmes imaginaires que la décroissance, et pour vous parler vraiment de la façon dont les gens se le représentent. La décroissance, évidemment, il y a une question très politique, du moins une dimension politique, qui, pour les consommateurs, ne sont pas vraiment un mot qu'ils utilisent. Alors, vous allez me dire, ils n'utilisent pas forcément davantage le mot sobriété, mais sobriété, on est déjà plus sur des pratiques, pour qualifier des pratiques, alors que décroissance, on est vraiment sur le système politique et économique.
Oui.
C'est vraiment cette façon d'envisager, entre guillemets, le monde qui entoure les consommateurs, parce que moi, je parle évidemment par les consommateurs, entre guillemets.
Sauf que là, mais justement, on ne s'adresse pas qu'à eux, précisément. Hein. C'est que ce concept, il nous fait réfléchir à toutes les échelles de la société aussi. Hein.
Bah, tout à fait. Je crois que la sobriété fait partie de la décroissance. Et il faut ouvrir le débat de la sobriété. Moi, je préfère parler d'abondance frugale, parce qu'il n'y a d'abondance que frugale, alors que nous vivons dans une société de surconsommation frustrée. Mais la sobriété à elle seule ne fonctionne pas dans une société de croissance, parce que la société de croissance, elle a besoin que l'on continue à consommer plus. Et dans une société de croissance, la sobriété, ça nous amène vers ce qu'on a vécu au moment du confinement, quand l'économie s'arrête, vers la récession. Et l'un des enjeux est vraiment entre décroissance choisie, organisée démocratiquement, ou récession subie, qui risque de nous arriver rattrapée par les catastrophes ou les pénuries de matières premières, ou rattrapée par des changements de comportement qui ne sont pas adaptés avec notre modèle économique.
C'est quoi surconsommation frustrée que vous venez d'employer ?
Eh ben, c'est ce que le modèle publicitaire nous incite à faire, c'est-à-dire que nous avons, par exemple, une empreinte écologique non soutenable dans nos sociétés occidentales. Nous surconsommons par rapport à ce que la planète peut nous offrir, même par rapport à ce que nous sommes capables de produire nous-mêmes, puisqu'on a une assistance technique de nos amis chinois.
Mais où est la frustration ?
Et la frustration, elle est créée par la publicité en nous faisant désirer toujours plus, c'est-à-dire une fois qu'on a acheté le dernier SUV, le dernier écran plat, le dernier téléphone portable, en sort un nouveau qui est présenté sur les médias dominants, qui est présenté dans les publicités et qui crée à nouveau cette frustration. Donc on vient d'acheter quelque chose qui a donné un petit plaisir jouissif rapide qui nous frustre et qui nous oblige à aller consommer toujours plus et nous entretient dans cette société de frustration. Allez,
Vincent Liéger, alors je vous observe, je vous regarde et je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a de décroissant chez vous, par exemple ? Alors, je vois, vous avez un agenda papier. Ça, c'est un signe de votre décroissance ou pas? Vous n'avez pas de téléphone portable sur
vous?
Qu'est-ce
que vous avez comme portable? C'est quoi le modèle de votre téléphone?
J'ai un portable, j'en suis très fier, que j'ai récupéré d'une amie parce qu'elle m'avait dit qu'il ne marchait plus et je l'ai réparé. Alors, j'ai la chance d'être un peu ingénieur et d'avoir des amis à Budapest qui ont un hackerspace et un Repair Café, donc on s'est bricolé. Mais je dirais que c'est très très loin d'être suffisant. Je pense que je serais beaucoup plus heureux sans téléphone portable, mais vu que je ne souhaite pas me couper de mes proches, je suis pris dans le piège sociétal d'utiliser ce type d'outils.
La veste que vous portez, par exemple, ou le t-shirt que vous portez, est-ce qu'ils sont décroissants alors ?
Ils ne sont pas plus décroissants qu'autre chose. Et je dirais que dans notre société, nous vivons toutes et tous avec beaucoup de contradictions. Même des gens qui vont rejeter la décroissance ont dans leur quotidien beaucoup de choses qui vont dans la logique de la décroissance. Ils vont faire preuve. Les plus riches sont très solidaires, sont très dans l'entraide, peuvent des fois avoir des choix de consommation qui peuvent être dans une logique de décroissance. Et puis, des décroissants vont se retrouver pris au piège de devoir accepter des bullshit jobs ou des boulots qui vont aller à l'encontre de leur éthique. Et c'est pour ça, si la sobriété est extrêmement importante, ou la simplicité volontaire est extrêmement importante comme levier autour de la décroissance, elle est très loin d'être suffisante parce que nous ne sommes pas toutes et tous égaux par rapport à nos choix au quotidien de consommation et nos choix de vie, de travail, etc.
Valérie Guillard, il n'y a pas de jugement dans cette question évidemment, mais c'est intéressant, vous qui êtes spécialiste quand même de ces questions, voir si vous les pratiquez aussi au quotidien. Alors votre sobriété, elle pourrait se voir comment par exemple ?
Alors, ma sobriété, elle pourrait se voir, je crois qu'il faut élargir un peu au-delà du studio, le fait de refuser vraiment sciemment de ne pas avoir de véhicule, par exemple.
Vous n'en avez pas, vous?
Je n'en ai pas, et en fait je me déplace uniquement en transport en commun et en bicyclette. Voilà, donc ça par exemple, voilà, spontanément je vous dirais cela.
Parce que vous le pouvez, hein, on va penser, vous dites en dehors du studio, on va aussi penser à plein d'auditeurs qui nous écoutent dans des lieux où ils ne peuvent pas se passer de véhicule, il y en a beaucoup.
Exactement,
hein.
Parce que j'habite en ville, enfin du moins en grande banlieue, et les transports publics sont de très bonne qualité, et je peux effectivement m'en déplacer voilà, de cette façon-là. Après, je pratique aussi d'autoproduction. Donc, ce serait effectivement pour moi une façon effectivement de cheminer vers la sobriété.
On va écouter une note vocale de Sylvie d'Ajaccio qui nous l'a laissée sur l'appli France Inter.
Bonsoir. Je me dis que la décroissance fait peur parce qu'on nous a habitués et nous sommes habitués au toujours plus, mais pas au mieux. Donc, la décroissance, c'est pas forcément moins, mais c'est mieux. Peut-être que c'est ça qui nous fait peur, c'est le moins. Mais il faut penser au mieux.
Voilà, alors toujours une réaction finalement autour du concept et de l'idée, Vincent Liéger pour lui répondre.
Ben là, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que c'est même pire qu'inversement proportionnel. Il y a un décalage entre les dernières études, enquêtes d'opinion qui ont pu être faites sur ces questions-là depuis 4-5 ans, notamment en France, mais c'est vrai dans la plupart des pays occidentaux. Et je vais en citer un seul. En 2020, le MEDEF publiait une étude et il se désolait que 67% des citoyennes et des citoyens français préféraient la décroissance comme solution par rapport aux défis environnementaux et aussi aux questions de justice sociale et environnementale, plutôt que la croissance verte et l'innovation technologique. Alors qu'en parallèle, sauf peut-être ici sur quelques émissions par-ci, par-là, mais je dirais 99,999% des médias, des politiques dominants nous vendent depuis des années une seule solution et ils nous la vendent dans une logique avec un jargon qui est « je crois en l'innovation, je crois à la croissance verte » qu'on ne voit toujours pas venir. Donc je crois que les gens aspirent à autre chose, à condition que le chemin soit clair. Parce que, pour rebondir un peu sur les questions précédentes, la décroissance individuellement n'est pas possible. Et même si on se serre la ceinture en tant que Français, on ne fait qu'une toute partie du chemin. La question est vraiment systémique. On posait la question des transports. Mmh. C'est repenser l'urbanisme, c'est repenser l'occupation des territoires, et ainsi de suite. Donc il y a des attentes autour de ça, et c'est un peu le but de ce livre, et des débats derrière le livre qui, j'espère, vont foisonner, qu'on doit se poser ces questions de comment on accompagne le changement pour, justement, sortir de nos dépendances à la croissance.
Valérie Guillard, est-ce que le problème derrière ce terme de décroissance ou de sobriété que vous utilisez, vous, c'est pas, vous qui êtes spécialiste des comportements, la culpabilité à laquelle ça renvoie, c'est-à-dire que on va dire, ah bah oui, il faudrait que vous preniez plus l'avion, il faudrait que vous preniez plus la voiture, il faudrait que vous consommiez moins, et il y a un moment, les gens disent, non mais en fait, moi j'ai pas le choix, et je suis désolée, je veux bien aller m'acheter des t-shirts à 50€ parce qu'ils tiendront plus longtemps, mais quand on a une famille, des enfants, etc., on fait au plus pratique, au moins cher, parce qu'en fait, on n'a pas le choix.
Oui, complètement, et c'est vrai que si on parle de sobriété d'une façon assez négative pour qu'elle soit ressentie comme la privation, oui, en effet, ça sera un terme très négatif.
Ou encore une fois, le fait de sentir coupable. Donc comment est-ce qu'on rend ce concept déculpabilisant, en fait?
Je pense que le fait de, j'ai envie de dire, Les gens le vivent mal, en effet, parce que ils le voient comme une privation. Mais à partir du moment où vous faites le chemin, vous avez le cheminement de mieux et moins consommer, la sobriété, ça ne veut pas dire se priver de tout, en fait. La sobriété, c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'au début, vous allez peut-être ne plus consommer certains biens qui prélèvent beaucoup de ressources, et puis peut-être en dernier recours, ça sera ne plus prendre l'avion, parce que pour vous, c'est, la consommation ultime que vous n'arrivez pas à diminuer. Donc non, bien sûr que les personnes se culpabilisent parce que maintenant c'est dans le discours médiatique, il y a beaucoup d'injonctions à ne pas faire ça, ne pas faire ci. Moi, je pense que je persiste à croire et à dire que la sobriété, c'est un cheminement, c'est-à-dire qu'on commence par des choses, des pratiques possibles qui sont pas trop coûteuses, et en effet, et on gagnera pas dans le discours public à culpabiliser justement les gens, ou du moins à ce que eux-mêmes se culpabilisent parce que il y aura des sous-entendus. Sur ce mot-là.
Allez, on y revient dans un instant. La décroissance, c'est le thème de la Terre au carré. Et vos messages déjà très nombreux sur le site de l'émission et par note vocale.
Il s'agit d'un petit mec de Provence. Il aime la musique et le cinéma.
Et Laurent Garnier, le groupe sera en concert ce soir à 21h. Ce sera au studio 104 de Radio France et vous pourrez donc écouter ce concert présenté par Rebecca Manzoni.
La Terre au carré sur France Inter.
L'Europe a besoin de projets. Elle a besoin de solidarité. Elle a besoin de croissance.
La croissance qui nous manque, je veux aller la chercher. Je veux aller la chercher, non à l'extérieur de nous-mêmes, mais en nous-mêmes.
La croissance, c'est pas un mythe. La croissance, il ne faut pas l'attendre, il faut la faire.
On attend, on annonce encore d'ailleurs, pour le mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois, un retour à la croissance.
Qui met du temps, hein.
Qui met du temps, voilà. Ça désespère un peu les gens.
Voilà, tous les présidents sont d'accord sur la question. Il faut aller chercher la croissance avec les dents, par exemple, comme Nicolas Sarkozy. Extrait de Sacrée Croissance de Marie-Monique Robin en 2014. Vous avez d'ailleurs aussi la version Castex, extrait d'un discours de juillet 2020.
L'écologie n'est pas l'apanage d'une génération, d'une classe sociale, des quartiers de certaines villes ou d'un parti. L'écologie, c'est notre affaire à tous. Elle doit être créatrice de richesses. Je crois en la croissance écologique, pas à la décroissance verte. Rien ne serait plus inefficace ou injuste que de demander à certains de nos concitoyens, qui n'en ont tout simplement pas les moyens, de changer brutalement leur mode de consommation ou de déplacement. À nous, À nous de concilier transition écologique et pouvoir d'achat.
Voilà, le Premier ministre avec aussi la croissance. Vous voulez réagir à ce qu'on vient d'entendre?
Il y a un élément extrêmement intéressant dans le discours de Jean Castex. Il dit pas « j'ai travaillé avec mes experts, mes conseillers et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait préférable de mettre en place la croissance, de mettre en place le découplage, de mettre en place l'innovation technologique, etc. » Il dit « je crois en la croissance et je ne crois pas en la décroissance. »
Ouais.
Et c'est pour ça que ce mot, je trouve, touche très juste, parce qu'il s'attaque à une religion, à une croyance, et on n'est pas sur des débats rationnels, malheureusement, sauf ici aujourd'hui, mais avec ces politiques-là, nous ne sommes pas sur des débats rationnels.
Sauf que quand on regarde finalement ce qui se passe dans le monde et à l'échelle de la France aussi, par exemple avec la fin des 30 Glorieuses, c'est-à-dire que la croissance, c'est déjà quelque chose qui n'est plus une réalité, à part la Chine, par exemple, qui arrive encore à faire de la croissance à 5, 6, 7%. Donc, il faut déjà s'y mettre maintenant, c'est ça, pour essayer de faire face à la situation?
Et on continue à essayer d'aller arracher avec les dents quelque chose qui, d'une part, est toxique et nous rend malheureux, nous amène toujours plus vite droit dans le mur, et qui, plus est, n'arrive pas. Donc ça fait... Il y avait Monsieur Mitterrand aussi qui était là, ça date quand même de quelques années, voire décennies, et on est dans ce rabâchage depuis des décennies et des décennies, un espèce d'enfermement quasi-religieux, culturel, et qui nous empêche de nous poser les bonnes questions... étant de sortir de cette incantation au toujours plus quantitatif et mesurable par le PIB pour aller vers des réflexions sur quels sont réellement nos besoins fondamentaux et comment on y répond de manière soutenable et juste.
Une question d'Agathe sur l'application France Inter. Un pays qui passerait dans un modèle de société de la décroissance ne se ferait-il pas absorber par les autres pays tant que la richesse assurera la puissance? Parce que vous parlez de religion, Vincent Liéger, mais il y a aussi Valérie Guillard, le système tout simplement économique et donc social qui s'est construit sur ce modèle de croissance. Si demain on arrête tout, tout le monde est au chômage.
Oui et non, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, quand on pense à justement, alors bon, moi je vais parler plutôt de la sobriété, mais en effet, il y a des nouvelles activités qui, regardez l'économie fonctionnelle, regardez l'économie collaborative, même si c'est encore très mineur aujourd'hui, c'est pas du tout la majorité, il n'empêche que ça a créé beaucoup, ça a créé des activités, et ça a créé des emplois, et ça crée effectivement, des nouveaux, j'ai envie de dire, des nouvelles perspectives. Tout à l'heure, je sais plus, on parlait d'un t-shirt qu'on achèterait, effectivement, je crois que c'est vous, d'une meilleure qualité, peut-être produit en France, je sais pas si, quel était le bout de votre réflexion, mais si en fait on revient sur, pas forcément tous les t-shirts produits en France, mais sur des produits effectivement dont la main d'œuvre française est beaucoup plus importante, eh bien là, me semble-t-il, il y aurait des créations d'emplois. Donc voilà, je pense qu'il faut pas penser sur des choses dichotomiques, c'était comme ça, et qu'est-ce qui va se passer effectivement si on arrête ce système-là. Il faut peut-être repenser justement comme on voulait quelque chose de créatif, peut-être repenser certains points du système pour que justement on puisse avoir de la consommation, je dirais moi personnellement, sobre.
Vincent Liéger, pour compléter la question.
J'aimerais rebondir sur cette question parce que c'est souvent un des arguments qui est mis en avant. La décroissance, c'est peut-être une bonne solution pour la France, mais si on y va, les Chinois vont nous bouffer. Puis les Chinois, ils disent, mais sinon on y va, les États-Unis vont nous bouffer, etc., etc. Et ce qui est extrêmement intéressant, et Mathieu Bidard l'a rappelé dans son propos introductif, c'est que la décroissance est devenue un mouvement international qui ne s'appelle peut-être pas décroissance partout dans le monde, mais je dirais le débat qu'on est en train d'avoir ici aujourd'hui, il arrive aussi en Chine, il arrive en Inde, il arrive en Afrique, il arrive aux États-Unis, il arrive dans tous les pays du monde. Et il y a, je crois, aujourd'hui un peu toutes ces tensions, et la période Covid l'a renforcée aussi avec les ruptures d'approvisionnement sur beaucoup de choses. Quand on s'est rendu compte qu'une grande partie des principes actifs des médicaments n'étaient plus produits en Europe et qu'on dépendait de tout un système extrêmement compliqué et un paquebot...
Et délocalisé,
un paquebot se plante dans le canal de Suez et on se retrouve à la rue. Quand on s'est rendu compte que lorsque les travailleurs ne pouvaient plus voyager, on avait des productions de légumes et de fruits bio dans le sud de la France qui ne pouvait plus travailler et qu'on avait des ruptures d'approvisionnement. Je crois que ça a alerté ici comme ailleurs, et il est important de porter ce débat à la fois en France, dans les sociétés occidentales, mais aussi en lien et en coopération avec les autres régions du monde, parce que si on prend la décision de rompre avec ces chaînes d'approvisionnement aussi ici, on va créer du chaos économique dans d'autres parties du monde, et inversement, si on n'anticipe pas la fin de ce système-là, quand le pétrole va commencer à manquer, vous avez reçu mon ami Ozano il y a quelques jours qui l'a rappelé, on va se retrouver face à des situations terribles avec des ruptures d'approvisionnement sur les produits fondamentaux partout dans le monde.
On va écouter la note vocale de Bertrand.
Bonjour, je suis plutôt pour la décroissance, je trouve que le concept est intéressant, mais ne pensez-vous pas que ce concept est applicable uniquement pour les pays aisés, pour les personnes qui ont des revenus, un minimum de revenus et de possessions? Je pense que ce concept, dans les pays pauvres ou en développement, ne peut pas être appliqué. Et c'est un peu, je trouve, la limite de ce concept. Comment expliquer à un pauvre Africain, simplement un Marocain qui travaille sur chaîne avec 250 euros, qu'il doit vivre avec moins? C'est, je trouve, la limite du concept, que je trouve pourtant salutaire pour notre futur. Merci.
Et une question absolument centrale, Valérie Guillard.
Oui, c'est une excellente question. Alors, encore une fois, mais c'est exactement la même question hein, sur la sobriété. On la pose souvent. Effectivement, je pense que la sobriété, j'aime presque en dire malheureusement, elle concerne beaucoup les classes qui ont des revenus supérieurs. Parce qu'en fait, on sait bien que les consommateurs qui ont des revenus, donc les classes supérieures, consomment et donc polluent beaucoup. Je crois qu'on le sait.
C'est les plus grands émetteurs de gaz à effet de
serre. Exactement. Donc en fait, le fait que ce concept de sobriété ou de décroissance s'adresse aux plus riches, eh bien, justement, dans les faits, oui, parce que dans les faits, ce sont les plus riches, entre guillemets, qui polluent le plus.
Donc, c'est eux qui devront faire d'abord des efforts, Vincent Liégeric.
Exactement, et je dirais que c'est la condition sine qua non pour permettre aux pays dits les plus pauvres de pouvoir se réapproprier leur autodétermination, parce que ce qui permet le mode de vie des plus riches, dont nous faisons partie en France, c'est l'exploitation à la fois des personnes et des ressources premières des pays dits en voie de développement ou des pays dits du tiers-monde. Et je crois qu'un des enjeux de la décroissance et cette critique du développement qui était un des piliers centrales lorsque ce mouvement est né et qui dit critique du développement, c'est revenir sur l'histoire de ce mot qui est en fait un mot qui à la fois embarque l'ensemble de la planète dans l'idéologie de croissance, dans l'idéologie de notre modèle développementiste, de la société thermo-industrielle, etc. Et on ne voit que ça ne marche pas et qui plus est permet de perpétuer un système post-colonial dont l'étape suivante aujourd'hui est autour de ce qu'on appelle les énergies propres autour du tout électrique, ouais. Qui en fait se déplace, par exemple, pour prendre
c'est ce
un exemple
derrière
parmi d'autres.
Les technologies voitures électriques ou téléphones portables, par exemple, avec des réalités sociales sur le terrain.
Exactement, donc ça permet pas à nos amis chiliens ou du Congo de se réapproprier leur autodétermination, parce que c'est plus de pression sur eux, sur l'extractivisme, sur les mines que nous voulons pas voir dans nos pays.
Allez, on y revient dans un instant. Il y a beaucoup, beaucoup de questions pour vous sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
Et à 14h32, Camille passe au vert pour votre chronique, bien sûr, Camille Cronier.
Et j'espère que vous n'êtes pas claustrophobe, hein, parce que je vous emmène sous terre aujourd'hui. Enfin, pas tout à fait.
Camille est là. Nous sommes en compagnie de Laurent et de Alexis, ainsi que de Cindy, et nous pénétrons dans la grotte du banquier.
C'est Jean qui nous emmène, Jean Camplot, spéléologue dont l'accent vient de l'Hérault, la ville de l'Odève où commence le Larzac. Et avec ses collègues spéléos, mais aussi hydrogéologues, plongeurs, historiens, il cartographie depuis maintenant 2 ans l'immense réseau souterrain des cours d'eau du Larzac, un système complexe et encore plein de mystères. Juste avant de redescendre avec eux, Jean m'a quand même expliqué le but de ce travail.
Le Larzac, c'est quand même quelque chose d'aride. Il y a une agriculture, alors peu intensive bien sûr, qui existe, mais le réchauffement climatique, dans quelques années, on n'est pas à l'abri d'avoir de la vigne sur le Larzac. Et mieux on connaîtra son patrimoine souterrain, plus on sera en mesure de pouvoir le protéger. Donc vraiment, le but de tout ça, c'est connaître l'eau, en quantifier la ressource le mieux possible, dans le but de la protéger pour les générations futures, clairement.
De l'exploration pure et dure, dit Jean Camplot, que j'aurais bien suivi, moi, en vrai, là-bas. Sauf que j'ai pas pu me téléporter dans la grotte du banquier. Du coup, je lui ai demandé de s'enregistrer et de tout m'envoyer. On y retourne donc, allumer la frontale.
On progresse. Ouais. Actuellement, nous sommes à une profondeur de moins 150, à plus de 3 km de l'entrée. Et nous allons commencer une séance de topographie, c'est-à-dire la récolte des données qui permet de dresser la cartographie de la grotte.
Gauche, 2,75. Droite, -14.
Et alors, il s'est bien prêté au jeu, notre spéléo-reporter, vous allez voir.
Alors Cindy, toi, c'est quoi qui te plaît dans ce projet ?
Moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est le traçage des rivières qui, grâce au colorant, nous permet de connaître l'origine de l'eau qu'on trouve dans notre robinet.
Et oui, un colorant sans impact sur l'environnement, je le précise. C'est grâce à ça qu'il remonte les réseaux.
La grotte du Banquier a pour particularité d'être en partie noyée. Les spéléologues qui l'explorent, en fait, si vous voulez, Camille, ils sont obligés de s'arnacher de combinaisons de néoprène pour traverser de grandes zones de lacs pour rejoindre une partie plus sèche de la grotte qui est toujours en cours d'exploration. Heures de sortie. Nous sommes actuellement à mi-parcours entre l'entrée et le fond de la cavité. Nous sommes dans la galerie dite du métro. Elle porte bien son nom, cette galerie, puisque vraiment on dirait une galerie de métro. C'est-à-dire que ses dimensions sont assez exceptionnelles pour le creuse du Larzac. Elles peuvent atteindre parfois jusqu'à 8 mètres de diamètre. Alors bien sûr, il n'y a pas de train ici, il n'y a que des spéléologues, mais cette galerie du métro nous amène vers le fond de la grotte à plus de moins 150 sous terre.
Alors, les associations Larzac Explore, dont fait partie Jean Camplot et Céladon, ont déjà répertorié plus de 11 km de galeries, ce qui va permettre donc de mieux gérer la ressource en eau. D'ailleurs, ils travaillent avec le service des eaux de la communauté de communes du Lodévois-Larzac, une façon aussi de mieux connaître ce patrimoine géologique. Ils feront une conférence justement ce vendredi pour les journées du patrimoine à l'ODEV pour raconter tout le projet, les enjeux, leur travail. Patient, hein, vu tout le temps que l'équipe passe sous terre.
Alors, du coup, ça fait combien de temps qu'on est sous terre là ?
11h.
11h ? Donc on est rentré ce matin à 8h. On s'est déjà à 19h alors.
Oui, j'ai fait.
T'as fait ? Alexis aussi ?
Ah oui.
Voilà, on a froid, on a faim. Maintenant, on se dirige vers la sortie de la grotte pour essayer d'y trouver un peu de température un peu plus clémente qu'ici, puisque la température avoisine les 11 degrés. Et l'humidité est quasi ambiante.
Ce qui ne les empêche pas d'y retourner toutes les semaines, et cela jusqu'en 2023 minimum, parce que les souterrains n'ont pas fini de révéler leurs secrets et leurs recoins. En tout cas, bravo pour le reportage maison.
Ouais, ben on sait, on ira pendant les chaudes années qui viennent, voilà, on ira dans les grottes à 11 degrés pour avoir un peu de fraîcheur. Camille Passauvert, c'est à réécouter sur franceinter.fr. Et la décroissance, c'est le dossier de l'émission. On y revient dans un instant, juste après l'Impératrice. Tombée pour la scène, c'était l'Impératrice.
La Terre au carré,
Le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
C'est quand même fou qu'aujourd'hui, n'importe quel concept, et surtout les concepts qui font peur comme la décroissance, doivent être transformés en quelque chose de ludique, de glamour, de déculpabilisant. Mais en fait, dans la vie, il y a des choses qui sont difficiles et c'est pas pour ça qu'il faut pas les faire. Enfin, je veux dire, par exemple, les études, c'est difficile. Bon, ben, les gens les font quand même. Donc, en fait, on n'est pas obligé de tout rendre forcément méga fun, paillettes et chocolat, voilà. Il faut aussi savoir prendre ses responsabilités, savoir que si on veut décroître, on en assume les conséquences, que ce soit au niveau politique ou au niveau personnel.
Merci Alice pour votre message sur l'appli France Inter, message bien reçu et qui fait beaucoup réagir d'ailleurs nos invités. Valérie Guillard, vous voulez dire un petit mot, hein.
Oui, merci beaucoup pour ce témoignage. En effet, je pense que la sobriété demande un effort. Voilà, c'est un effort à partir du moment où la sobriété a du sens et des pratiques ont du sens pour soi, ça ne demande plus d'effort. Mais en effet, effectivement, ça demande quand même de remettre en cause quelques pratiques.
Ouais. On a un message de Mathilde sur l'application France Inter. On s'est habitué à un confort infini et certains ont peur de le perdre. Il faut retourner à des valeurs plus simples pour que tout le monde ait accès à une vie saine. Un message également de Michel qui nous écrit, Vincent Liéger, les décroissants ne parlent jamais des risques liés à une croissance démographique sans limite. Qu'est-ce que vous répondez à Michel ?
Alors, je réponds que jamais, c'est un peu exagéré, puisqu'on a un petit chapitre dans le livre sur le sujet. Donc, je renvoie Michel et à toutes celles et ceux qui se posent ces questions à notre livre. Mais je vais quand même dire quelques mots. Si la question de la bombe démographique avait du sens à être posée dans les années 60-70, malheureusement, aujourd'hui, elle devient beaucoup moins pertinente, puisque toutes les études démographiques montrent que on a très peu de leviers, je dirais, humains, non barbares, sur lesquels on peut jouer pour... par rapport à cette question-là, puisqu'on va atteindre un pic de population autour de 10 milliards de personnes à l'horizon 2050. Il y a encore une seule région du monde qui connaît une forte croissance démographique, qui est l'Afrique subsaharienne. Et les dernières études montrent qu'en fait, on est déjà dans un ralentissement de cette croissance démographique. Donc on a très peu de leviers joués là-dessus. Et aujourd'hui, ce qui serait la bombe démographique, la bombe P, serait plutôt le vieillissement de nos populations. Et pour réagir à la question précédente...
Et le non-renouvellement de certaines populations,
exactement,
comme
en
Allemagne par exemple.
Exactement, et la question va plutôt être comment, avec moins de pétrole et plus de besoins de tâches physiques, faire dans une société où on aura beaucoup plus de vieux à nous occuper. Donc la vraie question démographique aujourd'hui devient de plus en plus la question des vieillissements des populations et non plus la question de la croissance démographique. Alors après,
ça a été quand même une réalité, parce que cette croissance que vous montrez dès le début du livre, d'ailleurs dans plein de secteurs, les matières premières, l'énergie consommée par exemple, le transport maritime, la circulation numérique, c'est parce que la population aussi a augmenté ces dernières décennies, qu'on a consommé beaucoup plus.
Les deux étaient liés, c'est qu'à la fois il y a une augmentation de la population mondiale et une augmentation de la quantité d'énergie consommée par habitant. Et le modèle occidental, avec des inégalités énormes, le modèle occidental nous poussait à toujours plus. Donc je dirais la croissance économique qui entraîne une croissance de nos besoins en énergie n'est pas possible. Ces courbes en exponentielle, aujourd'hui, on voit qu'on a atteint les limites. Mais la croissance pour la démographie était tout à fait absurde. Donc il faut retrouver des équilibres et pour revenir à la question, est-ce que ça va être difficile, il va y avoir des réflexions sur justement comment retrouver des équilibres démographiques dans les territoires. Il ne s'agit pas de contrôler la natalité ou de contrôler les populations, mais au contraire de penser de manière autonome, de manière réfléchie, de manière individuelle à comment on construit ces solidarités intergénérationnelles dans la transition et dans l'avenir.
Et Fabien nous écrit justement que personnellement, lui, il trouve le mot équilibre plus agréable. Une question de Mélanie qui nous demande si la sobriété ne doit pas être imposée d'abord aux entreprises avant les particuliers. Valérie Guillard, pardon.
Écoutez, moi, je pense pas qu'il te faille opposer les deux. En fait, c'est pas très sain d'ailleurs d'opposer les deux. Et bien entendu, les entreprises doivent aussi écouter ce qui se passe dans la société et notamment l'épuisement des ressources naturelles. Je pense qu'elles sont effectivement, elles doivent être concernées, même si d'ailleurs elles le sont. L'économie circulaire, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont passées à l'économie circulaire. Elles ne sont pas du tout sourdes à cela. Moi, je pense que les deux et les territoires. Tout à l'heure, on parlait des territoires. Les territoires aussi doivent penser sobriété et ils le font pour certains. Donc oui, tout le monde en fait. Je pense que c'est vraiment une une interaction entre tout le monde, une interconnexion entre tout le monde.
Vincent Liégé, il y a une question évidemment cruciale, centrale, c'est celle de l'énergie, hein, parce que la croissance, c'est avant tout de l'énergie, toute celle que nous consommons pour toutes les actions au fil de la journée et de nos vies. Donc ça, c'est évidemment le levier auquel il faut s'attaquer en premier.
Alors c'est un levier central. On est aujourd'hui dépendant à 80% environ d'énergie fossile.
Oui.
L'énergie fossile, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est une accumulation d'énergie solaire via l'accumulation de biomasse sur des millions, dizaines de millions, centaines de millions d'années. Et on a commencé à les utiliser il y a 150 ans.
Ouais.
Donc c'est un espèce de cadeau empoisonné dont on a bénéficié pendant quelques générations. On arrive à la fin. Ces énergies fossiles sont aussi, à travers leur combustion, ce qui provoque le changement climatique,
ouais,
qui indirectement provoque la chute de la biodiversité. Via toujours plus d'artificialisation des sols, etc. Donc un des enjeux de la décroissance va être de repenser notre rapport à cette surabondance d'énergie qui quelque part aussi nous rend fous.
Il y a un chiffre qui fait réfléchir pour être justement dans la ligne de l'accord de Paris, pour rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement climatique, on devrait réduire de 60% notre consommation d'ici 2030, donc dans 9 ans. Hein. 60%, on n'y est pas du tout.
On est très 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 loin d'être à la hauteur des enjeux. Et une fois de plus, quand on parle de sobriété, ce qui va être nécessaire, quand on parle du monde de l'entreprise, en fait, on ne peut pas se passer de la question de transformation de nos organisations sociales, de notre système économique qui régit les règles. Et quand je vois, par exemple, des groupes d'industriels, il y a eu cet été, si je me souviens bien, une tribune dans Le Monde, du monde du textile, qui disait, pour pouvoir être sobre, il va falloir remettre en place des réglementations.
Mmh.
Et l'industriel, l'entreprise, les citoyennes, les citoyens qu'il y a dedans, qui se posent aussi des questions, ne pourront pas sortir de cette impasse, de cette aliénation à la croissance, à la compétition économique, s'il n'y a pas à un moment donné une réflexion sociétale sur les règles du jeu que l'on construit.
Question de Gérald sur Facebook qui demande si on ne devrait pas parler plutôt de croissance vertueuse. Alors est-ce que tout ça c'est de la sémantique, Valérie Guillard, ou pas ?
Oui, je pense qu'effectivement c'est de la sémantique et parce qu'en fait vous voyez déjà même depuis le début de l'émission on a déjà au moins 10 concepts en fait, on se bataille sur, je pense que voilà, trop utiliser de concepts, on sait plus sur de quoi on parle. Voilà, aujourd'hui manifestement il y a un système, c'est un système basé quand même sur la croissance. Alors peut-être qu'effectivement Vincent sera pas d'accord avec cela et il faudra effectivement certainement le revoir, mais comment, hein, il y a aussi la question du comment qu'il faut aussi quand même un jour poser. Et la croissance verte, ou je sais plus comment vous,
c'est la croissance vertueuse.
Ouais. Voilà, par définition une croissance ça doit être vertueux, mais vertueux pour qui et pourquoi? Donc si elle a été vertueuse, et d'ailleurs il faut aussi s'en réjouir sur peut-être le système scolaire, sur le système de santé, parce qu'il faut quand même aussi le rappeler, je pense. Il n'empêche qu'effectivement il y a aujourd'hui une vraie problématique qui se pose sur l'épuisement des ressources naturelles.
Est-ce qu'il va falloir renoncer à tous nos désirs finalement, et puis à nos rêves aussi quand même, parce que dans notre façon de consommer, il y a aussi tout ça, que nous vend beaucoup la publicité, mais est-ce que c'est ça aussi la décroissance, c'est juste consommer ce dont on a strictement besoin?
Alors, c'est consommer ce qu'on a besoin. Maintenant, c'est vrai que le mot renoncement, il est très négatif.
Ah oui, c'est sûr.
Et
oui,
pour le coup, en effet, je pense qu'il faut se re-questionner. On l'a fait pendant le confinement sur nos besoins. De quoi avons-nous besoin? Tout à l'heure, il y a une auditrice, elle a dit effectivement le moins et le mieux. Mais pourquoi le moins? Plutôt consommer le mieux. Bah, l'économie, effectivement, on consomme mieux aujourd'hui en revenant sur la façon, sur des pratiques.
Oui.
Mais par contre, le moins, ça veut dire, effectivement, il est un peu négatif ce mot, mais ça veut dire nos besoins. De quoi avons-nous vraiment besoin? Et moi, je pense que ça ne sera pas une frustration, contrairement à tout à l'heure ce qu'on a pu en dire. Ça, à partir du moment où vous consommez ce dont vous avez besoin, vous n'êtes plus frustré.
Marion nous écrit sur Twitter, parlons plutôt de frugalité. La frugalité, c'est se contenter de ce qui est nécessaire. Par exemple, je n'achète pas de vêtements si ceux que je porte ne sont pas usés. J'utilise une voiture correspondant strictement à mes besoins. Mais encore une fois, Vincent Liégé, c'est ce que disait tout à l'heure une autre auditrice. Est-ce que finalement, et un autre auditeur, c'est pas réservé aujourd'hui à une minorité? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, de toute façon, ne consomment que ce dont ils ont besoin parce qu'ils n'ont pas les moyens de consommer plus. Donc...
Alors tout ce qui est les besoins fondamentaux, nos désirs, c'est quelque chose de toujours très subjectif, et qui plus est, qui se construit socialement. Et je dirais que l'un des enjeux de la décroissance, c'est de sortir de la manière dont on s'est fait voler nos désirs, et de se réapproprier nos propres désirs. Et je crois que sur la question du mot décroissance qui commence par D, l'un des enjeux, en fait, moi je suis très à l'aise à remplacer le mot décroissance par le mot démocratie. L'un des enjeux va être de repenser en fait des débats, des délibérations, des réflexions citoyennes sur quels sont vraiment nos besoins fondamentaux, libérés de la publicité, libérés de la publicité telle qu'elle existe, mais de manière de créer des controverses, parce que c'est quelque chose qui va être très compliqué entre les désirs des uns et des autres, etc. Et de retrouver autour de ce questionnement-là des équilibres dans comment on y répond. Donc les désirs peuvent être différents dans un cadre donné par rapport aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux, de leur impact, mais aussi comment on y répond, c'est comment on partage des tâches difficiles, comment on ne crée pas de nouvelles dépendances avec d'autres territoires ou avec d'autres matériaux ou matières premières et ainsi de suite. Donc décroissance, c'est l'enjeu principal, c'est la démocratie.
La décroissance, c'est très très bien, j'en suis moi-même adepte, mais la question est tellement complexe, par quel bout prend-on la chose? Parce que dès qu'on commence à déconsommer, à consommer moins ci, à acheter moins de cela, l'économie, on est tellement pris dans un engrenage que dès qu'on consomme moins, il y a des pays qui en pâtissent, il y a des professions qui disparaissent, il y a... Voilà, par quoi commencer, pensez-vous? Merci.
Merci à vous, Olga, pour cette question sur l'appli France Inter. Vous voulez répondre, Valérie Guillard?
Oui, je trouve ça intéressant parce que ça révèle aussi, effectivement, les soucis et les questionnements, le stress que ça peut créer, effectivement. C'est la première chose à laquelle les gens pensent, c'est effectivement l'emploi. Mais comme on l'a dit, effectivement, tout à l'heure, il y a aussi d'autres choses qui vont se créer aussi. Ça dépend ce qu'on consomme. Si, encore une fois, on veut consommer des choses de qualité, qui pourraient être... à nouveau produite en France, ça peut créer aussi des emplois en France. Et encore une fois, il y a des entreprises, même si elles sont très minoritaires, et je ne vais pas citer des marques aujourd'hui, mais voilà, on a ce type de production. Donc, il ne faut pas voir que dans la partie aussi négative.
Vincent Liégé, complément de réponse pour Olga.
Il y a deux choses. Donc, la première, c'est que je crois qu'il faut réfléchir aujourd'hui à des outils qui permettent de recréer de la citoyenneté. Dans le livre, on cite cette fameuse phrase de Thomas Paine après la Révolution française, que être citoyenne ou citoyen et être en mesure de pleinement jouer le rôle de citoyenne et de citoyen, donc de participer à la vie de la cité, aux décisions, etc., ça passe par le fait d'avoir une sécurité et d'avoir accès aux minimaux. Donc il faut ouvrir le débat autour du revenu de base, autour des gratuités sur un certain nombre de services publics et un certain nombre de ressources, ouvrir le débat des communs, ouvrir le débat du revenu maximum acceptable et des redistributions.
Là, vous parlez pour le monde entier, on est d'accord.
Je parle pour n'importe quel territoire. Il y a des villes où ces débats ont déjà commencé et se mettent en place. Ces débats sont présents un peu partout à travers dans le monde. Et partout où on ouvrira ces débats et on commencera à les mettre en place, ce sera autant de chemins parcourus face aux défis qui sont les nôtres.
Allez, un chanteur visionnaire et décroissant, bien avant le Vélib. Voici Yves Montand à bicyclette.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette. Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes, à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer, pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur, à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants, à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait, c'est pour demain, J'oserai, j'oserai demain, quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Nos invités, Valérie Guillard et Vincent Liéger, pour parler de décroissance cet après-midi avec énormément de messages, Camille.
Et justement, oui, Thierry sur Twitter qui nous écrit « La décroissance, c'est préférer la coopération à la concurrence, la sobriété au gaspillage, le ralentissement à l'accélération. » Est-ce que c'est une bonne définition, Vincent Liéger ?
Parfait.
C'est beau, hein.
Bravo Thierry. Une question de Jean-Pierre qui lui nous écrit, est-ce que la décroissance ne devrait pas être finalement une conséquence d'un changement de société plutôt qu'une fin en soi, Valérie Guillard?
Mais c'est oui, bien sûr, c'est là une conséquence. En fait, j'ai presque envie de dire, ce sont les deux. Voilà, je dirais les deux.
Jérôme nous écrit, commencer par interdire la publicité et les promotions serait un bon début. Mais est-ce que ça, c'est tout simplement réaliste comme proposition, Vincent Liéger?
Alors moi, je pense qu'il serait intéressant non pas d'interdire la publicité, parce qu'il y a énormément de personnes qui travaillent dans ce domaine et qui sont des gens extrêmement brillants, avec beaucoup de créativité, qui ont une très bonne connaissance de comment fonctionne le cerveau humain, mais de faire de la réorientation vers d'autres métiers, qui pourraient être des métiers de facilitateurs, de débats, de délibérations, donc de revenir à l'essence de la publicité, de rendre public des informations pour faciliter les controverses autour de la décroissance, plutôt que de nous manipuler à désirer des choses dont on n'a pas vraiment besoin.
Alors, on est beaucoup dans la théorie, mais dans la pratique aussi, vous qui avez justement lancé en 2015 Cargonomia, à Budapest, c'est un centre de recherche, d'expérimentation sur la décroissance. Donc, il y avait quoi? Une ferme biologique, c'est
ça? Une ferme bio, un petit atelier vélo, on fabrique des vélos cargo et des remorques, et puis un petit centre logistique où on distribue des légumes, des paniers de légumes bio, produits localement.
Six ans plus tard, vous faites quel bilan, vous, là-dessus? Ça fonctionne sur combien de personnes, par exemple? C'est quasiment un petit labo, mais sur...
Alors, on n'est pas dans la quantité, mais dans la qualité. Le bilan qu'on fait, c'est que quand on se retrouve dans un collectif assez élargi, on avait la chance à Budapest, qui est une ville qui avait des dynamiques alternatives assez fortes, et quand on se retrouve dans un collectif assez élargi qui partage les mêmes idées et qui partage beaucoup de savoir-faire et d'outils, on vit très bien en décroissance. Et c'est très compliqué pour moi quand je reviens à Paris, que je n'ai plus ce cocon-là et que je n'ai plus accès ni à mes vélos cargo, ni à mes légumes bio, ni à mes cantines collectives ou mes lieux alternatifs pour aller boire une bière locale. Je souffre beaucoup plus.
Ouais. Mais vous parlez d'un cocon, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on se referme dans des cocons justement pour être
on parle de relocalisation ouverte, donc il va falloir relocaliser parce qu'on ne vit que là où on est. Relocaliser, ça fait sens aussi pour rompre avec toute cette gabegie énergétique de transporter tout et n'importe quoi dans tous les sens de manière absurde et qui plus est créer des interdépendances extrêmement fragiles, extrêmement dangereuses.
Vous êtes pour le protectionnisme.
Et donc ouverte, c'est pour ça que j'insiste sur l'ouverture, parce que plus que jamais, qui plus est, on a vu encore en ouverture de ce journal de nouvelles catastrophes météorologiques, plus que jamais on va avoir besoin d'ouverture et de solidarité. Donc on relocalise parce que ça fait sens, parce que quand on relocalise nos productions et nos échanges, on se reconscientise sur l'impact réel, humain et environnemental de ce que l'on produit et de ce que l'on consomme, mais on garde grande ouverte les frontières pour accueillir, pour s'entraider, et aussi pour débattre et partager sur les bonnes pratiques ou les erreurs que l'on peut faire.
Et vous distinguez de l'extrême droite alors?
De ce point de vue-là, je crois que j'ai été on ne peut plus clair.
Un dernier message sur Facebook de Sabine qui nous écrit par rapport à la décroissance. Vous parliez de la publicité qui influence nos besoins, mais il y a aussi la pression sociale, nous écrit-elle. Je pense aux enfants qui demandent téléphone, PS4, basket, etc. En tant que parent, pas facile de trouver le bon dosage. Comment on fait face à ça, Valérie Guillard?
30 secondes.
Oula, c'est très compliqué et c'est une vraie question. J'ai pas une recette miracle, mais en effet, il y a vraiment les normes qu'on construit, qu'il va falloir effectivement re-questionner. Notamment, moi, je dirais juste, puisque j'ai très peu de temps, sur regarder le cadeau. Qui autour de cette table offre des objets d'occasion en cadeau? Voilà, par exemple. Alors, je réponds pas à la question, mais tout ça, c'est des normes sociales qu'il va falloir re-questionner.
Allez, on refera des émissions sur le sujet. On peut lire vos ouvrages Décroissance, Vincent Liéger, chez Tana Édition. Valérie Guillard, Comment consommer avec sobriété, c'est chez Debec. Et puis, amis auditrices, auditeurs, continuez à nous laisser des messages sur le répondeur. Si vous souhaitez réagir à l'émission, 01 56 40 45 45 dès maintenant.